Vous êtes sur RTL.
4h du matin.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Voici toute l'actualité en ce samedi 25 avril 2020. C'est avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane. Bonjour à tous.
Et le gouvernement qui doit esquisser ses premières pistes la semaine prochaine sur le déconfinement.
D'ici là, encore beaucoup d'équations à résoudre, d'inquiétudes à calmer, de solutions à trouver. Le chronomètre est enclenché. William Galibert à Matignon, c'est un week-end studieux qui s'annonce.
Oui, parce qu'il y a énormément de choses à trancher sur le fond et énormément de choses à corriger sur la forme. Alors ce week-end, ce sera une succession de réunions de travail, de consultations et de coups de fil, résume Matignon. Où faut-il distribuer les masques grand public ? Comment faire appliquer les règles sanitaires pour la reprise des transports ? Quelles règles fixer pour le retour à l'école ? Tout est encore sur la table. Ce sont des sujets ultra complexes. On a besoin de temps et on en manque cruellement, résume un conseiller du pouvoir. Édouard Philippe doit aussi remettre de l'ordre dans ses propres rangs. De sources concordantes, il a été ulcéré par les couacs de ces derniers jours. Son ministre de l'Éducation a fait des annonces seules sur la reprise des cours. Sa ministre des Sports a étalé ses états d'âme dans la presse quand ce n'est pas directement l'Élysée qui est venu brouiller les messages en annonçant de nouvelles pistes de travail. Question communication, ça n'a pas été nickel, euphémise un proche qui assure que le Premier ministre reste malgré tout solide dans la tempête et que tout sera prêt à temps.
William Galibert du service politique de RTL, parmi les tâches colossales qui attendent le gouvernement, l'aspect financier, éviter la banqueroute de certains secteurs. Les restaurateurs, par exemple, vont devoir encore attendre un mois, fin mai exactement, avant de savoir si, oui ou non, une réouverture est possible avant l'été et dans quelles conditions.
Pour Air France, Agnès, c'est d'ores et déjà décidé. L'État vole au secours de la compagnie aérienne.
7 milliards, c'est la somme annoncée hier soir par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Un plan historique, dit-il, qui va se dérouler en deux phases. 4 milliards de prêts bancaires garantie par l'État et 3 milliards de prêts directs par l'État. Objectif, surmonter la crise du coronavirus et sauver ainsi les 350 000 emplois directs et indirects. Pour le secrétaire général d'UNSA Air France, Yves Joulin, c'est surtout l'avenir qui est inquiétant. L'annonce en elle-même.
C'est une bonne nouvelle parce qu'on l'attendait depuis 15 jours. Ça va permettre à l'entreprise de survivre pour le moment. Qu'est-ce qui va se passer après? On sait clairement que l'entreprise Air France est endettée. Un prêt supplémentaire va être compliqué à gérer pour les années à venir. 3 milliards prêtés par les banques, 4 milliards prêtés par l'État. Dans quelles conditions il va être remboursé? Sur quelle durée? Et quelles sont les conditions du prêt surtout? Voilà, c'est très compliqué quand on voit les prévisions de vol, puisque l'espace Schengen est fermé, ça complique la situation d'Air France. On attend et on a peur qu'il y ait des restrictions beaucoup plus drastiques sur les, on va dire, les Caraïbes ou la Réunion par rapport à l'expansion du Covid-19. Ça permet de sauver la situation pour le moment, mais coûte de l'avenir. Ce qu'on souhaite clairement, c'est qu'au maximum, les salariés d'Air France ou du groupe Air France qui concernent Hop ou d'autres entreprises n'en pâtissent pas trop.
Yves Joulin, joint par Vincent Serrano pour RTL. 7 milliards pour Air France donc, mais aussi 5 milliards d'euros pour aider Renault. Le constructeur automobile bénéficiera uniquement d'un prêt garanti par l'État.
On parlait d'Air France, Agnès. La compagnie est mise en demeure par l'UFC Que Choisir.
Et elle est loin d'être la seule. Lufthansa, Emirates ou encore EasyJet, Ryanair, l'association de consommateurs donne 15 jours aux compagnies, pas plus, pour rembourser purement et simplement aux clients les billets annulés en raison de l'épidémie. C'est ce que prévoit la réglementation européenne. Le président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot, prévient « Ceux qui ne proposent que des avoirs risquent gros ».
On voit que ce règlement est un véritable paillasson que tout le monde piétine. Donc les premières, c'est vraiment les compagnies, mais ensuite c'est le gouvernement. Dans la bouche du secrétaire d'État, M. Djebari, on l'entend dire que les consommateurs doivent prendre un avoir alors que ce n'est pas du tout une obligation pour eux. Un bout de papier qui n'a pas beaucoup de valeur, parce que si dans plusieurs mois la compagnie disparaît, évidemment que cet avoir, il va s'envoler en fumée. Le consommateur, lui, qui a ses difficultés, en attendant, il paye son loyer, il paye ses remboursements d'emprunt. Ça, c'est parfaitement insupportable. Autant vous avez 16 compagnies en France qui jouent le jeu, qui remboursent, et il y en a d'autres qui gagnent du temps. Donc, on veut taper du poing sur la table. On vous donne 15 jours pour vous mettre dans les clous, Si ça n'est pas le cas, l'étape suivante, c'est le procès. Les voyageurs qui ont vu leur vol annulé, ils sont des milliers, sans doute des dizaines de milliers, on a la possibilité de faire une action de groupe si les compagnies ne veulent pas entendre raison.
Alain Bazot, le président de l'UFC, que choisir avec Marie Guerrier pour RTL? Le déconfinement, lui, doit débuter le 11 mai. Dans une tribune publiée dans Le Figaro ce matin, 130 prêtres et curés de toute la France en appellent directement à Emmanuel Macron. Ils demandent au président que dès cette date, il soit possible de célébrer à nouveau des messes dans les églises. Au total, depuis le début de l'épidémie, 22 245 personnes ont été tuées par le virus en France. En 24 heures, 389 morts supplémentaires. La seule lueur d'espoir, en fait, c'est le nombre de patients en service de réanimation. Il repasse enfin sous la barre des 5000. 5000, c'est le nombre de lits dont la France dispose en temps normal, ce qui n'empêche pas la Direction générale de la Santé de prévenir. Attention, la vigilance est de mise, l'épidémie n'est pas terminée.
Et puis quel est le comble pour un cartel de drogue? Faire du social, de l'humanitaire.
C'est exactement ce qui se passe au Mexique. Des denrées de première nécessité estampillées El Chapo sont distribuées à des personnes âgées, isolées dans les quartiers les plus pauvres. C'est la fille du célèbre narcotrafiquant, actuellement derrière les barreaux, qui a mis en place ce système généreux, certes, mais avec un objectif précis, Pierre Julien: entretenir la popularité du cartel.
Ah, c'est vrai qu'elle a l'air bien serviable, cette Mexicaine qui remplit avec ses employés plusieurs cartons de paquets de riz, de haricots, de sachets de soupe, mais aussi de gel hydroalcoolique et bien sûr de rouleaux de papier toilette. La jeune femme, née et bouche protégée par un masque noir à l'effigie d'un moustachu, est pourtant connue dans tout le pays. Ce n'est évidemment pas la charmante Salma Hayek, mais Alejandra Guzman, la fille de son père, Joaquin, le redoutable narcotrafiquant, dit El Chapo, le petit, détenu au pénitencier de très haute sécurité de Florence, dans le Colorado. Le cartel de Sinaloa qu'il dirigeait a introduit, record absolu, 155 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Son image, c'est lui le moustachu, est aussi imprimé sur tous les colis distribués aux plus démunis de la ville de Guadalajara. Mais ce bel acte de charité rime plus avec duplicité car il fait la promotion de la marque El Chapo 701, 701 qui rappelle la place qu'occupait le criminel dans le classement des milliardaires établi par le magazine Forbes, celle obtenue entre autres par l'assassinat, l'enlèvement et la corruption.
Pierre Julien pour RTL. J'ai du mal à croire que je doive dire ça, mais s'il vous plaît, ne buvez pas de l'eau de Javel. Consterné Joe Biden, candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine. Consterné car lors de sa conférence de presse hier, Donald Trump s'est demandé si s'injecter un désinfectant ne serait pas une solution pour combattre le Covid. Alors cela a provoqué un tollé, obligeant le locataire de la Maison Blanche, quelques heures après, à préciser que ses propos n'étaient que sarcastiques. C'est vrai qu'avec plus de 50 000 morts aux États-Unis, c'est vraiment le moment de faire de l'humour.
8h08 en ce samedi matin, la vente en pharmacie des substituts nicotiniques limités par le gouvernement.
Et sur Internet, il est désormais impossible de s'en procurer après l'annonce d'un éventuel effet protecteur de la nicotine contre le Covid. Les autorités craignent une ruée sur ces produits, que ce soit les patchs, les gommes à mâcher ou autres pastilles. En Bretagne, Nicolas Bobby, vous vous êtes rendu dans une pharmacie. Vous avez constaté que franchement, les clients étaient plutôt raisonnables.
Dans la pharmacie d'Antoine Le Grignou, la vente est désormais limitée à un mois de traitement.
C'est-à-dire ne pas honorer les demandes de quantité anormalement élevées. Ce que je regrette un peu, c'est que le gouvernement soit obligé de prendre des mesures restrictives. Nous pouvons aussi simplement refuser la vente sans que ce soit légiféré d'emblée.
Pas de razzia sur le patch, à Locminé, la population reste rationnelle.
Moi je parle en tant que non-fumeur. Mais je me renseigne un peu sur tout. Quelqu'un qui ne fume pas, ça lui transmet des problèmes cardiaques s'il met un pack anti-tabac. Donc c'est des fake news.
Non, je n'ai pas du tout pensé au patch. Je suis fumeur, je fume toujours. Quoi. C'est pas un patch qui va me soigner. Quoi. Si je suis Covid-19, ça va pas me soigner.
Bon voilà, moi je suis agent de sécurité. J'ai vu du tout et du n'importe quoi. La seule chose qui peut lutter contre le Covid, c'est que les gens restent chez eux.
Ici, dans le centre-Bretagne, la principale préoccupation, c'est où et comment se procurer des masques.
Le reportage de Nicolas Bobby pour RTL. Et plutôt que les substituts nicotiniques, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens aimerait que l'exécutif soit aussi rapide concernant un autre arrêté, celui qui permet de vendre des masques alternatifs pour le grand public. Aujourd'hui, il y en a dans les officines, mais la vente est toujours interdite.
Alors l'abus de livres, lui, ne sera jamais dangereux, Agnès, pour la santé.
Hein. Ouais, les libraires réfléchissent à comment organiser la réouverture de leurs magasins. Plusieurs clients dans le même rayon, à flâner, à proximité les uns des autres, il n'en est pas question, bien évidemment. Comme dans les autres boutiques, les gestes barrières feront partie du quotidien. Comme certains restaurants qui ont décidé de faire de la vente à emporter pour limiter la casse, eh bien à certains endroits, on peut venir récupérer ses livres après avoir passé commande. C'est le cas de la boîte à livres. C'est à Tours, Christian Panvert.
Oui, près d'une centaine de personnes sont passées hier après-midi récupérer leurs commandes. Derrière une petite table, Joël Afking, directeur de la boîte à livres, masque sur le visage, les mains gantées, remet deux ouvrages à une lectrice assidue.
L'ambitieux de Patrick Poivre d'Arvor aux éditions Grasset. L'autre livre, c'est Diane Ducret, La dictatrice, aux éditions Flammarion. C'est une petite réouverture dans le sens où les gens viennent à la porte retirer leurs commandes. Et c'est beaucoup mieux qu'ils commandent justement sur le site pour payer en ligne, qu'il n'y ait pas de relation caisse. Il faut autant que l'équipe se sente protégée et les clients aussi.
Philippe est venu à vélo. Sur son attestation de déplacement dérogatoire, il a justifié achat de première nécessité.
J'ai envie de conserver une librairie dans le centre-ville de Tours. Donc, c'est donnant-donnant. Il faut un effort. Je suis client, je fais un effort. Bien sûr, on ne peut pas être 24 heures sur sa télé, sa tablette. Et en plus, c'est pour l'anniversaire de mon épouse. Donc, j'y tenais, y faire plaisir.
Sa femme ne devrait pas être déçue. Il a choisi le dernier Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, prix Renaudot 2019. En passant commande, Estelle dit avoir fait un acte militant.
Ça évite de faire des commandes.
Voilà, merci
beaucoup sur des sites où on n'aurait pas envie de commander. Puis ça permet surtout de soutenir les commerces de la ville.
Les retraits s'effectuent uniquement du mardi au vendredi entre 16h et 18h, en attendant la réouverture tant espérée le 11 mai.
Merci beaucoup pour ce reportage. Christian Panvert à Tours pour RT.